Bonjour tout le monde et bienvenue à un épisode de C'est quoi ta spécialité? Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Dr Balela, qui est un gynéco-obstétricien, donc qui a sa clinique à Côte-des-Neiges.
Ouais, ça a été vraiment une belle discussion encore une fois. Dr Balela est comme vraiment passionné par sa carrière, puis il trouve que de voir le miracle de la naissance à tous les jours, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire.
Ouais, je lui suggère fortement de l'écouter. Il y a vraiment un parcours de vie qui est un peu plus atypique, qui est touchant, donc c'est un excellent épisode.
Ouais, donc, on va aller remercier nos commanditaires. N'oublie pas de dormir 8 heures cette nuit.
Donc, on aimerait ça remercier notre commanditaire officiel, Archer. Archer, c'est une compagnie de gestion financière qui est spécialisée en médecin depuis 1970. En fait, il permet à donner des services gratuits aux étudiants et aux résidents en médecine, autant en gestion de portefeuille, gestion de dette et gestion de prêts et bourses.
C'est vraiment une équipe qui est facile d'approche. Ils vont aussi, comme vous pouvez booker un rendez-vous avec eux dès maintenant, puis ils prennent vraiment le temps de discuter avec vous de ce dont vous avez besoin financièrement, des meilleures stratégies pour optimiser vos finances. Puis, ouais, c'est vraiment agréable de discuter avec eux, même si c'est de la finance, c'est pas plate avec Archer.
Ouais, donc si vous avez besoin de questions, conseils, n'hésitez pas à les contacter, ils sont là pour vous.
Donc, Dr Balela, merci beaucoup d'être ici.
Bonjour, merci à vous. Plaisir. Pourquoi? Félicitations à vous d'ailleurs d'avoir en fait créé cette initiative qui est magnifique.
Ah, ben merci beaucoup. Merci. Donc, pour commencer, on aimerait en apprendre un peu sur vous puis votre parcours. Donc, est-ce que vous avez toujours su que la médecine, c'était faite pour vous?
En fait, non. Et c'est un petit peu ironique en fait qu'on se rencontre aujourd'hui le 11 septembre. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Je suis né et j'ai grandi au Venezuela, c'est en Amérique du Sud, où vraiment la société est assez différente du Canada et où, en fait, le système de santé est presque non existant, pour être complètement honnête, et ça va de pire en pire, malheureusement. Donc, la médecine, en fait, n'est pas une force de la culture vénézuélienne nécessairement, mais mes intérêts personnels à moi, en fait, depuis que j'étais très jeune, c'était de devenir pilote d'avion.
Oh, ouais.
Jusqu'à le 11 septembre 2001. Où l'attentat, en fait, aux États-Unis, j'étais encore au Venezuela dans le temps, en fait, m'a un petit peu enlevé l'idée de vouloir potentiellement me trouver dans une situation telle. J'étais jeune, j'étais très impressionnable encore, et ça a un petit peu enlevé l'idée, en fait, de ma tête. Mais pourquoi j'ai dit ça, que c'est ironique le 11 septembre? C'est parce que, premièrement, on est le 11 septembre aujourd'hui, mais aussi, en fait, parce que c'est cette année où on a émigré au Canada. Et pendant cette année, en fait, entre le septembre 2001 et 2002, une fois arrivé au Canada, ma mère, en fait, s'est fait diagnostiquer avec un cancer du sein. Et mes parents finissent par se divorcer, en fait, 6 mois après le diagnostic. Et donc, je suis devenu un petit peu un aidant naturel qui prenait soin de ma mère à la maison, alors que mon père n'était peut-être pas présent aussi fréquemment qu'il était. Évidemment, il n'habitait plus avec nous. Et ça m'a mis un petit peu, en fait, ça contextualisait un petit peu le rôle de la femme dans la famille, l'importance, le rôle fondamental que la femme va jouer dans la famille. Et l'idée, en fait, derrière était donc, me trouvant dans un état comme aidant naturel, sans le vouloir presque, j'ai appris un petit peu à apprécier la prise, en fait, en charge, la prise de soins de la femme en tant que telle comme figure familiale fondamentale et importante. Et ça, en fait, c'est arrivé assez vite, je dirais, en fait, un changement de paradigme, en fait, dans ma tête, de dire, OK, est-ce que je veux faire quelque chose qui n'a rien à voir avec la médecine, plutôt la génie, la mathématique, tout ce qui est, en fait, la technologie, ou est-ce que je veux m'aller plus dans un contexte, dans un milieu plus de prise de soins de quelqu'un, en fait. Et j'ai comme un petit peu tombé en amour avec le rôle d'aidant naturel, même si la personne derrière était ma mère, en fait, et on la voyait évidemment évoluer, malheureusement, avec le temps, de façon négative. Mais ça m'a quand même resté, en fait, le désir de vouloir promouvoir, en fait, la figure de la femme dans la société. Et quelle meilleure façon de le faire qu'en tant que médecin, en fait, qui aide, a priori, à faire grandir des familles et qui accompagne les femmes à travers le processus de la grossesse qui est aussi magnifique. Donc, c'est vraiment un 180 presque dans une année. Mais je me suis vraiment bien retrouvé dans ces stades. Et depuis, j'ai voulu juste, continuer à trouver des façons, justement, de promouvoir cette idée, en fait, qui est la femme dans la société et surtout dans le noyau familial.
Wow, et puis, parcours atypique un peu.
Très atypique. Oh, ouais, très
dès que vous étiez rentré en médecine, vous saviez que vous voulez aller dans le domaine de la gynéco-obstétrique.
En fait, c'est drôle. La réponse est en fait non. Et il y a plusieurs en fait, choses encore. Mon histoire est un petit peu atypique, effectivement. Mais là, une des choses qui m'a quand même marqué beaucoup, c'est le... Sûrement, ça vous est arrivé aussi. La première journée de l'école de médecine, vous avez la grande rencontre avec les doyens qui vous parle un petit peu de la faculté, de l'histoire de la faculté. Moi, je suis aussi à McGill, là, comme vous autres. Et une des choses qu'il a dit, en fait, qui est vraiment restée avec moi jusqu'à aujourd'hui, il a dit, l'état de la médecine est tel aujourd'hui. Soit vous en allez en pédiatrie, ou soit vous en allez en gériatrie. C'est-à-dire, la médecine garde un petit peu le monde en vie un petit peu plus longtemps qu'il faisait, en fait, il y a 30, 40 ans de cela. Et c'est une excellente chose, évidemment. Mais ça s'avère que vous soyez chirurgien orthopédique, chirurgien général, psychiatre, interniste, cardiologue, peu importe, on va voir en fait de plus en plus des personnes un petit peu plus âgées, évidemment, à moins que vous allez en pédiatrie et que vous êtes juste dans le domaine en fait, de la petite enfance ou de l'adolescence. Je n'avais rien, évidemment, contre les enfants, ni les adolescents, ni les personnes plus âgées, mais vraiment, ce qui m'a tiré plus vers la médecine, vers les domaines médicaux, surtout après avoir commencé à prendre soin de ma mère, a priori, d'une certaine façon, à la maison, c'était plus le côté humain, le côté artistique, le côté communicatif, le côté, en fait, d'empathie, moins que le côté scientifique. Et donc, ayant cette idée, après, j'en entends le doyen parler, qui dit, bon, c'est la population plutôt gériatrique ou pédiatrique. C'est sûr que la communication est des fois un petit peu plus difficile avec ces deux groupes de personnes, parce que souvent, quand ils se trouvent dans un milieu hospitalier, par exemple, côté plus la communauté plutôt gériatrique, ils sont souvent un petit peu confus, il y a peut-être un petit peu de délirium, de démence. Et côté, évidemment, pédiatrique, il n'y a encore peut-être pas une acquisition de langage complète encore. Et donc, même si c'était fascinant comme sujet, je veux dire, comme thématique scientifique, c'était peut-être pas pour moi, le fait de vouloir pouvoir s'asseoir avec quelqu'un et discuter vraiment de votre santé, de la prendre en charge comme il faut. Et je peux vous le dire aujourd'hui, en prétendant des années d'expérience, c'est qu'il n'y a pas une personne plus motivée dans la vie qu'une femme enceinte pour le bien-être personnel et de son enfant. Et ça fait donc une communication absolument fascinante, en fait, avec une femme enceinte qui est motivée, en fait, et qui se connaît, je peux vous dire exactement le nombre d'heures qu'elle est enceinte, presque. Parce que vraiment, ça vient transformer un petit peu la personne. Et pour moi, c'est ce qui m'a vendu. C'est l'effet de pouvoir parler avec quelqu'un et de pouvoir vraiment concrétiser un plan pour leur aider, j'étais vendu. Alors ça, c'est une des choses, en fait, avec laquelle j'avais commencé à penser peut-être à l'obstétrique, la gynécologie. Il y avait autre chose aussi, vous m'avez posé la question avant, si jamais, en fait, pendant mon enfance, j'avais pensé à la médecine. Je n'avais pas tant pensé à la médecine en tant que telle, mais j'avais pensé quand même à la grossesse. Pour une raison très spécifique, vous ne voyez peut-être pas parce que je vous fais face, mais je suis né, en fait, avec une petite tache de naissance derrière mes cheveux qui est blanche. Je vais vous montrer. Et bien évidemment, je savais que c'était là, mais je pensais que c'était une affaire assez fréquente, assez commun. Je n'ai pas pensé plus jusqu'à ce que je rentre à l'école et qu'il n'y avait personne qui avait ça dans la tête. Je dis, coudonc, pourquoi moi? Qu'est-ce qui est arrivé justement dans le ventre de ma mère? C'est ce mystère que l'on ne voit pas, mais qu'on voit juste grossir et d'un coup un bébé qui sort. Qu'est-ce qui m'est arrivé justement à l'intérieur que j'ai fini par avoir ça? Alors. On n'a pas la réponse, bien évidemment, mais l'idée, en fait, de penser au développement depuis la grossesse et ma personne personnelle, j'avais déjà pensé à la grossesse. Et donc, il y avait toutes ces petites choses, en fait, et dans cette circonstance de vie dans laquelle je me trouvais, qui m'ont poussé plutôt vers la santé de la femme et principalement vers l'obstétrique, la gynécologie.
Puis avez-vous hésité entre aller vous spécialiser en gynéco-obstétrique puis faire médecine familiale et avoir une...
Le volet, la troisième année.
Ouais.
C'est une bonne question. Et la réponse, en fait, non. Honnêtement, je n'ai jamais, en fait, considéré la médecine familiale parce que j'avais, honnêtement, peur de la quantité, en fait, d'informations qu'il fallait retenir, d'être spécialiste d'une certaine façon sans être spécialisé. Vous voyez, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Et pour moi, je n'ai pas le genre de cerveau qui me permet de faire mille choses. Alors, en même temps, moi, je suis quand même même dans la spécialité, on en parlera, j'en suis sûr, qui est hyper variée, c'est d'avoir quand même un genre de framework où je sais, OK, je suis dans ces quatre coins, puis tout ce qui est dehors, c'est peut-être, ça appartient peut-être à quelqu'un d'autre. Mais je trouvais la médecine familiale très, très, en fait, intimidante. pour pas dire, en fait, c'est le mot que je trouvais. Et il y avait le côté chirurgical de la chose, en fait, qui m'attirait quand même beaucoup et que j'étais peut-être pas capable de, d'exercer en tant que médecin de famille. Donc, j'ai opté plutôt pour la spécialité chirurgicale, la gynéco-obstétrique.
Est-ce qu'il y a des choses que vous avez découvertes sur la gynéco-obstétrique que vous attendiez pas un peu avant, soit durant votre externat ou votre résidence?
En fait, une chose que j'ai apprise, je vous dirais plutôt surtout de la médecine de façon générale, mais particulièrement dans l'obstétrique et la gynécologie, c'était encore une fois dans cette thématique de l'humanisme en fait, derrière la médecine, c'est le pouvoir de la communication. C'est le pouvoir en fait, de pouvoir parler avec quelqu'un même 30 secondes et d'échanger complètement sa vision des choses, pas pour dire sa vie là, mais je veux dire la façon dont elle voit peut-être quelque chose qui arrive. Et je ne m'attendais pas à ça. Souvent, quand je dis « non madame, ça c'est normal », et là, on voit quand même l'apparence de la patiente qui charge. Je dis, ah, c'est vrai. Je dis, oui, OK, ça y est. C'est vraiment le pouvoir, en fait, qu'on a en tant que médecin, en tant que même, d'une certaine façon, un leader dans la communauté ou dans la société, chez qui, en fait, on va chercher de la vie, en fait. Et de la vie important, des fois, en fait, entre la vie et la mort, pas pour dramatiser les choses, mais je dirais la médecine de façon générale. Et souvent... quelque chose qui, pour moi, paraît quand même insuffisant comme réponse ou peut-être incomplet parce que l'état des connaissances est tel qu'on peut-être on n'en a pas plus à en parler. Mais souvent, c'est assez pour certaines patientes qui sont assez bien. Savoir que quelqu'un leur a quand même soulagé juste en leur parlant, sans donner des traitements, sans nécessairement vouloir médicaliser, en fait, quoi que ce soit qui arrive. Et je trouvais ça absolument fascinant jusqu'à aujourd'hui. Et je l'ai vécu souvent beaucoup, en fait, dans la dernière année, plus que jamais à cause de la COVID, en faisant beaucoup de télémédecine. On ne voyait pas les patients devant nous. Mais des fois, justement, le fait d'en parler au téléphone ou le fait de se voir, en fait, à travers un écran, c'était assez pour prendre vraiment en charge, en fait, la santé de quelqu'un et d'avoir toujours cet engagement thérapeutique avec la patiente qui est si important. Même si ça remplacera jamais évidemment la rencontre personnelle, mais jusqu'à aujourd'hui, en fait, c'est vraiment le pouvoir de la parole qui je trouve ça absolument hallucinant qu'on soit capable en fait d'avoir un impact juste avec nos mots comme ça.
Ouais, c'est intéressant parce que je pense que souvent les gens s'imaginent la médecine comme il y a un problème, je le règle, fini. Mon rôle est terminé, mais ouais, on se rend compte que c'est beaucoup plus que ça.
Beaucoup plus, ouais, c'est beaucoup plus subtil en fait, et c'est ça l'idée de derrière. En fait, notre réalité de tous les jours, en fait, l'expérience de quelqu'un peut être très subjective et il vient te voir, il dit « j'ai perdu une hémorragie, je suis en train de me saigner, je vais mourir, j'ai peur pour ma vie », alors qu'après, avec une discussion, on se remarque que c'est quelques gouttes de sang, par exemple. Et ce n'est pas pour diminuer l'expérience de la patiente, mais c'est juste pour vous dire à quel point l'expérience de maladie, l'expérience de la santé même, l'expérience de vie de façon générale est très différente entre toutes les personnes. Et donc l'idée, en fait, idéalement, il faudrait savoir comment cibler en fait les attentes de chacune des patients et comment mieux les aider, particulièrement dans les cas où il n'y a rien qui va mal, où il n'y a pas de traitement nécessairement à offrir. Et donc encore, c'est vraiment le pouvoir de la parole qui me tient beaucoup à cœur, même encore.
Puis moi, par rapport au parcours, j'en viens un peu à ça. Là, et je me suis dit que la résidence en obstétrique et gynécologie, c'est une des plus demandantes, un peu, qu'on pourrait dire. Comment vous avez vécu, vous, vos années de résidence?
Mes années de résidence étaient extrêmement difficiles. Pour des raisons en fait, qui n'ont peut-être pas tout à fait à voir avec la résidence en tant que telle. Et je suis heureux de vous en parler quand même. Mais côté en fait, des résidences en tant que telles, effectivement, c'est une résidence très demandante. Elle est de 5 ans. Avec, en fait, c'est une résidence chirurgicale. Et donc, il y a des attentes en fait, d'être des gardes, de couvrir plutôt l'horaire 24 heures sur 24 avec des résidents. Et surtout avec des postes en fait, qui diminuent au fur et à mesure, donc on travaille de plus en plus. L'idée, c'est 5 ans entre l'obstétrique et la gynécologie partagée. Même pendant les stages, mettons, de gynécologie ou de fertilité ou de gynécologie oncologique ou de urogynécologie, il y a des gardes en obstétrique qui se font en fait, pendant les week-ends ou pendant les soirs. Ce qui nous garde quand même à l'hôpital en moyenne environ entre 60 et 80 heures, là, facile par semaine, pendant 5 années.
C'est le double de la majorité des
à peu près, à peu près. Honnêtement, à peu près. Et ça n'inclut pas, bien évidemment, toutes les études qu'il faut faire, les examens qu'il faut passer, les cours qu'il faut enseigner, les activités, en fait, extra, pas dire curriculaires, mais plutôt en termes d'extra, en surplus du travail en clinique. C'est tough. c'est difficile. Il y a, tu sais, on manque de sommeil. C'est difficile souvent de prendre en fait une pause et de se dire, OK, si je viens, je n'y arrive pas aujourd'hui parce qu'il faut que je prenne des vacances, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va couvrir le service? Et plus en fait les places diminuent, mais plus on tient ça à cœur, donc on a tendance à vouloir travailler plus. C'est sûr qu'on a quand même des organismes qui nous protègent pour notre santé. On a quand même la Fédération des étudiants en médecine et des résidents, en fait, la FMRQ. Mais la réalité, en fait, sur le plancher, c'est que même si on a des quarts de travail, on va toujours rester un petit peu plus loin parce qu'il y a des choses qu'il faut que soient faites. Il faut faire le transfert d'informations à la nouvelle équipe qui arrive. Donc, c'est sûr que c'est une résidence très demandante, mais comme une panoplie d'autres. Il n'y a qu'une résidence en médecine qui est facile, ça, c'est clair. Mais la médecine, en fait... La résidence en obstétrique et gynécologie, étant donné qu'on reste à l'hôpital et qu'on ne prend pas des gardes à domicile, par exemple, on ne peut pas, a priori, pour la majorité de nos spécialités, c'est sûr qu'il y a un commitment, en fait, du temps assez important.
Et pourquoi, au final, ça vaut la peine? C'est pourquoi, aux auditeurs, vous dites, passez au travers de ces années-là, là, au final, c'est la plus belle spécialité qu'il y a.
Parce que c'est la plus belle spécialité qui existe. Mais en fait, c'est le miracle de la vie. C'est de voir un enfant venir au monde. C'est de pouvoir, en fait, avec une microchirurgie, en fait, enlever un cancer chez une patiente. C'est une possibilité, en fait, de faire un dépistage génétique la même journée qu'on règle, en fait, un prolapsus utérin chez une femme ménopausée. C'est la capacité, en fait, de pouvoir faire un counseling de fertilité et qu'une patiente qui n'a pas tombé enceinte, ça fait 5 ans, et qui son rêve de devenir maman, finalement, peut être capable de le faire. Et le tout dans une demi-journée à peu près. Je veux dire, c'est palpitant, en fait, comment c'est une seule spécialité, mais qui est tellement diversifiée. Et tu ne sais jamais à quoi t'attendre, en fait, quand tu arrives à la porte. Et c'est ça qui te garde un petit peu dans ton élément, si tu veux, d'une certaine façon. Et c'est pour ça que pour moi, personnellement, ça vaut la peine. Bien évidemment, on forme des relations avec nos collègues, avec nos patientes qui durent une vie. Et ça, c'est de l'or, en fait, pur. On ne peut pas avoir mieux que ça, bien sûr.
Puis justement, vu que c'est aussi vaste, est-ce que c'est un peu vous qui décidez si vous gardez tous ces aspects-là de la spécialité ou si vous décidez de vous concentrer plus sur soit le volet obstétrique, gynéco?
C'est
ça.
Alors, c'est une excellente question. Et effectivement, elle est tellement vaste qu'on carrément ne peut pas tout faire d'une certaine façon. Il y a certaines choses vraiment qui prennent une expertise supplémentaire, soit un fellowship ou une formation complémentaire plus focusée, en fait, pour faire, par exemple, la chirurgie complexe ou pour faire, en fait, de l'urodynamie en urogynécologie. C'est vraiment une acquisition des connaissances qui est très importante pour servir, en fait, à la population, mais qui n'est pas tout à fait pour laquelle on n'est pas tout à fait exposé pendant la résidence. Et donc, il faut des fois aller chercher un petit peu plus. Donc, la plupart des gynécologues, les gynécologues généraux, en fait, qui n'ont pas fait de fellowship, vont vouloir cibler un petit peu leur pratique à des choses qui sont, oui, beaucoup plus fréquentes et ou pour lesquelles elles ont un intérêt particulier sans tout à fait aller à des extrêmes, un petit peu faire de la chirurgie fœtale, par exemple, ou faire tout type de chirurgie vaginale, ou faire, en fait, des traitements de fertilité complexes. Tout ça, ça prend un petit peu plus de formation.
Puis vous, c'est vers quoi que vous vous êtes dirigé?
Moi, en fait, c'était ma surspécialité, a priori, ma formation complémentaire, si vous voulez, d'une certaine façon, c'est en recherche clinique. C'est un sujet qui me passionne, en fait, absolument. Les mathématiques, tout ce qui est la statistique et l'épidémiologie, c'est ce que je fais presque pendant mon temps libre. Je peux vous dire à quel point ça me passionne. Un deuxième certificat du Collège Royal, en fait. J'ai ma formation en obstétrique gynécologique, mais j'ai aussi, en fait, la formation des cliniciens-chercheurs. Et donc ça a pris, en fait, des années supplémentaires pendant le parcours de résidence. Et j'ai aussi, en fait, une maîtrise en santé publique. Mm-hmm. Donc, même si ma pratique clinique a plus une allure générale, je fais quand même de l'échographie, je fais quand même un petit peu de fertilité de base, un petit peu d'urogynécologie de base et certainement de l'obstétrique de la gynécologie générale. Ma surspécialité, en fait, mon domaine plus, qui m'appartient, mais qui m'appelle le plus, si vous voulez, c'est vraiment la recherche clinique en santé de la femme.
C'est sur quoi votre recherche généralement?
Alors, j'ai en fait 3 volets principaux, honnêtement, qui m'intéressent. Le premier volet qui m'introduit a priori à la recherche clinique, c'est ce qu'on appelle l'épidémiologie périnatale, c'est-à-dire, en fait, de déterminer... c'est en obstétrique. C'est de déterminer, en fait, quelle exposition pendant la grossesse peut amener, en fait, à des issues adverses pendant la naissance ou en fait au niveau néonatal. Et je regardais tantôt en fait le podcast que vous avez fait avec le chirurgien pédiatrique qui avait dit en fait que justement les pathologies qu'il traite sont tellement rares que souvent c'est juste des rapports de cas qu'ils vont avoir dans leur journaux en fait. Et c'est vrai, en fait, c'est une réalité de la recherche de façon générale. Plus on va chercher des choses spécifiques, mais plus rare ça l'est, mais moins des données on va avoir, parce que bien évidemment, heureusement, c'est rare, c'est des pathologies qui sont rares. Mais aussi, on a donc moins de capacités à établir des conclusions statistiquement significatives et qui ont de la puissance, qui vont pouvoir justement changer un petit peu le domaine.
Ouais, les recommandations. Mmh.
Les recommandations, la façon dont on prend soin de la pratique, on prend soin des patients. Alors que, étant donné que la grossesse n'est pas une maladie, et qu'il y a quelque part, dans un hôpital où vous soyez né, où moi je suis né, une petite ligne qui dit, ouais, Anne-Sophie, Anne-Rebecca, Apgar 9-9, avec un poids à la naissance de 3,5 kg, qui est né un lundi à 10h30, je dis ça n'importe quoi là. Ce sont des informations qu'on peut utiliser justement pour établir des conclusions par rapport à votre état après et par rapport au déroulement de la grossesse. Donc, alors que peut-être un neurochirurgien qui est une tumeur très rare, peut-être avoir 10 cas dans sa vie, il y a des bases de données de naissance, par exemple, qui a 4 millions par année aux États-Unis, qui sont publiquement disponibles, prêtes à analyser. Et donc, on peut en tenir des conclusions de n'importe quelle exposition. Si la mère habite, en fait, dans ces quartiers-là, quelle est la chance qu'elle accouche, mettons, d'un bébé d'un poids normal? C'est une question comme ça bête. Mais c'est des associations qui peuvent être faites juste par le fait qu'il existe des données. Mmh. Alors, ça, c'est mon domaine principal, ce qui m'a toujours intéressé. Par la suite, il y a eu, en fait, un événement clinique lequel j'ai vécu. Et c'était d'ailleurs pas loin de là où vous êtes. Je pense que vous êtes deuxième année de médecine, c'est ça?
Oui, exact.
C'est pour l'année prochaine, quand vous allez rentrer vraiment comme externe dans l'hôpital. J'ai eu, en fait, pendant mon stage d'obstétrique, j'étais en clinique. Et il y a une patiente qu'on m'a demandé de voir qui venait d'accoucher son enfant, ça fait 6 semaines. Je me dis, OK, d'accord, je vais aller voir la patiente, sans problème. Je prends son dossier, j'ouvre la porte, j'ai remarqué que la patiente pleure. Et elle était visiblement triste, alors que le bébé était là avec elle. Je dis, OK, je n'ai pas ouvert le dossier encore. Je me dis, il doit y avoir quelque chose. Mais bon, je me suis assis avec elle, je commençais à parler. J'ai compris assez rapidement qu'elle avait malheureusement perdu son utérus pendant l'accouchement. C'est-à-dire qu'elle avait une hémorragie massive et ça finit en fait en une hystérectomie. Ils ont dû enlever son utérus. Mais en contre-revanche, en fait, non pas en contre-revanche, je veux dire, encore pour ajouter plus de dommages en fait, à la situation, c'est une femme religieuse qui en voulait avoir beaucoup plus d'enfants et qui venait tout juste d'avoir son premier. Et là, elle me pose une question qui, fondamentalement, a changé un petit peu ma vision de ma carrière en recherche, pas pour être encore dramatique, mais vraiment, ça m'a poussé, en fait, à faire des recherches supplémentaires. Elle m'a dit, mais vous savez, ma sœur, elle a fini sa famille. Y a-t-il des chances que je puisse avoir son utérus si elle n'en a plus besoin? J'étais absolument stupéfait. Je veux dire, j'étais en troisième année de médecine. Je ne connaissais pas tant, en fait, à l'obstétrique, la gynécologie encore. Et là, on me pose une question d'une affaire que je n'avais jamais entendu parler, carrément. Tu sais, oui, le foie, ça se transplante. Oui, les poumons, ça se greffe. Oui, des fois, un pancréas. Mais d'ici là, tu aurais pu me dire un cerveau. Je t'aurais dit, OK, d'accord, peut-être. Mais un utérus, jamais. Je n'avais jamais entendu parler. Fait que je suis justement allé à... Je suis rentré à la maison, j'ai commencé à faire des recherches et j'ai remarqué qu'effectivement, il y avait une possibilité physiologique, en fait, de pouvoir subir cette intervention et qu'il y avait des études chez l'animal qui étaient faites et qui, en fait, avançaient plus près de l'espèce humaine. Mais que ce n'était pas encore rendu chez l'homme, chez l'être humain. Ça, c'était en 2010 environ. Alors, en lisant une des publications de l'équipe suédoise, en fait, qui faisait ces genres de greffes dans le domaine animal, il y a en fait un petit paragraphe qui parlait justement de l'éthique. Et le fait que, de déterminer en fait si ce qu'ils étaient en train de faire était éthique et quels sont en fait les enjeux éthiques qui sont nécessaires à en tenir compte avant de procéder en fait à faire ça chez l'humain. Et étant naïf, étant innocent, je me suis dit, je me mets à lire dessus. J'ai un petit peu lu sur l'éthique. Je me suis réuni avec des bioéthiciens. J'ai des collègues, en fait, en éthique qui avaient des formations en éthique. On s'est assis ensemble et on a créé, en fait, un set de critères éthiques qu'on jugeait en fait éthique, pas en fait en forçant, les forçant en fait dans la communauté, mais plutôt les mettant, les publiant, pour déterminer s'il y avait en fait un consensus que c'était des critères qui étaient adéquats. Ça avait passé en fait la revue des pairs déjà, donc ça avait quand même, c'était quand même assez rendu loin. Finalement, l'article est publié, et c'est juste à ce moment-là que c'était comme un petit peu l'élément déclencheur dans la communauté médicale pour dire, OK, on a quand même un backup plus éthique, on peut essayer donc de commencer les essais chez l'humain. Je ne dis pas que c'est juste nous qui avons fait ça, ce n'est pas ça du tout, mais l'idée en fait, c'est qu'on a quand même contribué un petit peu à l'avancement de cette notion, juste en s'asseyant, puis en pensant en fait aux questions, aux enjeux éthiques qui pourraient amener à ces genres de traitements. Alors, ça va faire maintenant 10 ans de cela, et depuis, c'est pas fait au Canada, ça. C'est juste fait en Europe pour l'instant, principalement. Il y en a environ 60 enfants qui sont nés d'après des greffes utérines. Là, maintenant, il y a une société internationale pour la transplantation d'utérus qui s'est réunie maintenant une fois par année. Ils ont tout un comité. Il y a de plus en plus de centres, en fait, qui vont faire cette procédure maintenant, encore une fois expérimentale, mais qui vient traiter en fait un type d'infertilité qui est ce qu'on appelle l'infertilité du facteur utérin, qui sont souvent les femmes qui sont soit nées sans utérus ou qui sont par exemple et qui ont perdu leur utérus pendant leurs années de reproduction, comme cette patiente avait fait, et qui finissent donc pour pouvoir mener une grossesse et avoir en fait un ou deux enfants dépendamment, et après on enlève leur utérus. Ils n'ont pas besoin d'avoir des immunosuppresseurs pendant des années, alors que pour tout autre type de greffe, en fait, c'est le cas. Et donc, ils diminuent après les risques d'être immunosupprimés pendant des longues années, alors qu'ils ont quand même réussi à avoir leur objectif familial.
C'est quand même fou. Puis pensez-vous que, comme par curiosité, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être fait pour les femmes trans dans le futur?
C'est ça, en fait, où le débat est aujourd'hui. La question, on n'a pas pensé encore en fait à la question côté plutôt clinique même encore. Mm-hmm. Je vous dirais, il n'y a pas d'essai en fait chez la population transgenre encore. Il y a quand même des théories qui suggèrent qu'il n'y aurait peut-être pas de contre-indications anatomiques ni physiologiques étant donné en fait que la vasculature, on peut la prendre même chez les vaisseaux en fait qui traversent l'homme. Mais aussi, parce qu'on finit par avoir une césarienne, anyway pour la femme. Donc, le fait d'avoir un col ou un vagin ou un canal, en fait, vaginal, n'est pas absolument un absolu nécessaire. Mais ce n'est pas, en fait, quelque chose qui est envisagé pour l'instant. Non. Et ce n'est pas quelque chose avec laquelle, en fait, on a, en tant que communauté, je veux dire, pensé encore à contempler, parce que c'est encore dans des très, très premières étapes, en fait, même pour la population X, comme on appelle, en fait, féminine.
Ouais, c'est d'extrapoler bien loin.
Un petit peu loin encore, mais c'est peut-être le futur, on ne le sait pas. C'est juste que ce n'est pas fait encore. Comme la greffe ne se faisait pas non plus il y a 10 ans, et là, c'est le cas, comme tout dans la médecine, quand c'est introduit, c'est un petit peu controversé, et tranquillement, on trouve un petit peu la sécurité, la façon de faire des façons sécuritaires, et on finit par avancer les besoins, en fait, sociaux qui existent dans la société, et le mouvement transgenre, en fait, qui augmente un petit peu dans sa présence, en fait, et heureusement que c'est le cas, je veux dire, mais c'est la capacité, la possibilité même d'être ouvert, en fait, par rapport au sujet, c'est déjà un grand avancement. Mm-hmm. Qu'est-ce qui va arriver avec la greffe? Ça, c'est une autre question plus loin.
Sinon, l'autre côté de votre pratique, c'est que vous avez votre clinique privée à Côte-des-Neiges.
Ouais, c'est ça, exactement.
C'est comment ça, ouvrir sa propre clinique, tu sais, au début, débuter là-dedans?
C'est une drôle d'histoire, en fait, aussi, parce que je finissais ma résidence, et il fallait que je trouve en fait un endroit où travailler, pour pouvoir en fait avoir mes patientes. Et j'ai reçu un appel un jour d'un médecin qui était près de la retraite, mais qui était mon patron, mais que je ne savais pas finalement avait fait son école en Mexique. Il me dit, OK, son école de médecine, je veux dire. Je dis, OK, est-ce que ça t'intéressait de prendre mon bureau? Et je dis, oui, par curiosité, pourquoi moi personnellement? Semble-t-il qu'il a à peu près 80% de ses patientes qui sont hispanophones. Alors, il voulait chercher quelqu'un qui parlait l'espagnol, qui pouvait prendre charge des patientes. Fait que je suis carrément très comblé. Je suis arrivé dans une pratique, non seulement complètement presque hispanophone, ce qui me tenait à cœur, bien évidemment, mais déjà établie. Fait que je n'ai pas passé à travers toutes les, les difficultés en fait que beaucoup de patrons pour une première fois vont avoir, carrément s'ils commencent des zéros, ils vont bâtir quelque chose, ils vont à chercher des meubles. Moi j'avais tout, mes instruments étaient prêts, j'avais en fait mes lames pour mes pas de test, j'avais mes pipettes pour les vieux, tout était prêt. Il fallait juste que j'y rentre, finalement j'ai, la seule chose que j'ai changé, j'ai eu un dossier médical électronique en fait, ce qu'il n'y avait pas dans le temps. Et
sinon, là, tout était prêt. Tout scénario parfait.
Bang!
Moi, ouais. Je me demandais, est où la ligne entre quelqu'un qui va être suivi par son médecin de famille qui a peut-être fait une troisième année là, ouais. en gynéco-obstétrique et quelqu'un qui va aller voir un
obstétricien? Ouais. C'est une excellente question. Techniquement, il n'y a pas vraiment de différence tant et aussi longtemps que la patiente soit ce qu'on appelle à bas risque. OK, on sait très bien, il y a des sages-femmes qui font des suivis de grossesse, il y a des accouchements même, il y a des médecins de famille qui le font, avec toutes les compétences en fait, que ça implique. Et il y a des obstétriciens à bas risque et un obstétricien à haut risque. Donc, là, c'est vraiment le choix de la patiente. Il faut savoir quand même qu'il y a certains bénéfices en fait, d'aller, mettons, avec une sage-femme que d'aller avec un médecin, non, on l'aura pas. Principalement, le fait que vous êtes certaine que la personne qui vous suit va être là pendant votre accouchement. Alors que pour un médecin de famille ou un obstétricien, ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. Mais départ, en termes de compétences, il n'y a pas vraiment de différence. C'est vraiment la caractéristique de la patiente et de sa grossesse. Si c'est une grossesse à risque, ça va toujours suggérer d'être suivi un petit peu plus dans un milieu hospitalier où on a peut-être pas des meilleures connaissances, mais plus accès en fait, à des technologies qui pourront nous permettre de faire des diagnostics un petit peu plus précis, plus pointillés. Ce que, mettons, peut-être un médecin de famille dans son cabinet n'aura pas ou une sage-femme dans un centre de naissance peut-être n'aura pas. Mais en termes de compétences et de qualités, c'est absolument pareil. C'est juste que la patiente a quand même le choix, dépendamment, encore une fois, de ses caractéristiques et de ses...
Quelqu'un qui fait sa gynéco-obstétrique le 5 ans. Mm-hmm. Moi, j'ai quand même l'impression que c'est vraiment chirurgical. Mais est-ce que vous pouvez quand même faire des accouchements réguliers puis des suivis de grossesse?
Absolument. Okay. C'est la grande majorité, en fait, le travail d'un obstétricien gynécologue, c'est de faire des accouchements normaux avec un suivi normal. Ça reste quand même que le taux de césarienne aujourd'hui dans la société, en fait, nord-américaine, c'est à peu près 30 % en moyenne, dépendamment des centres, entre 25 et 30 %. Ça fait un bébé sur 3. Ici, on est 3. Moi, je suis né par césarienne. Je ne sais pas vous en nommer.
Ah non.
Ouais, c'est
non.
Ça, voilà. Toi,
sur 3, exactement.
Mais l'idée, en fait, c'est que... oui, c'est sûr que c'est pas médecin de famille ni un sage-femme qui va faire la césarienne. C'est le médecin de garde, l'obstétricien, ou bien évidemment des césariennes électives qui se font. Ça s'inclut dans le 30%, on inclut en fait les césariennes électives qui incluent en fait toutes les césariennes répétées ou les placentas qui sont mal placées ou des jumeaux, peu importe, toutes les indications. Et là, c'est vraiment l'obstétricien qui va le faire. Mais la grande majorité des accouchements sont par voie vaginale, la majorité suivie de grossesse, à moins que vous fassiez vraiment une clinique très spécialisée. Par exemple, on a des spécialistes en obstétrique avec des femmes avec cardiomyopathie, en fait, c'est des maladies cardiaques. Mm-hmm. Ou qu'on fasse juste un suivi des grossesses à haut risque parce qu'ils ont toute une incompétence cervico-ismique, ou ce qu'on appelle une insuffisance cervicale. On peut quand même administrer notre pratique de la façon dont on veut. Mais la grande majorité des patientes étant des patientes à bas risque se font accoucher par des obstétriciens par voie vaginale, comme un accouchement n'importe lequel. Même si c'est effectivement une spécialité très chirurgicale, la plupart en fait, des accouchements, a priori, que l'on fait, la plupart de la gynécologie aujourd'hui, avec tous les avancements qu'on a vécu et tous les médicaments qui existent aujourd'hui, qui n'existaient peut-être pas en fait, il y a quelques années, on peut quand même les traiter par voie médicale. C'est-à-dire, l'exemple primaire en gynécologie, c'est tout ce qui est l'endométriose et tout ce qui est les fibromes. Dans les années 80-90, ça s'est traité principalement de façon chirurgicale. Mais on a développé des outils en fait, médicamenteux, a priori, des médicaments qui sont capables maintenant de traiter et de garder une femme carrément presque asymptomatique sans en fait, devoir subir de l'anesthésie et de la chirurgie, ce qui est quand même une avance énorme dans notre spécialité. Et je suspecte que ça s'en va de plus en plus vers une spécialité plutôt médicale que chirurgicale dans le contexte, même s'il y a encore un besoin absolument indéniable en fait, pour la chirurgie encore dans le bassin de la femme.
Mm-hmm. Puis si vous aviez à dire un des points positifs, si vous en pinpoint un là, par rapport à cette spécialité-là, c'est quel que je pense qui ressortirait en premier?
Honnêtement, si vous voyez votre vie comme un parcours, et que vous voulez en fait maximiser votre joie, en fait, si c'est vraiment le but de votre vie, il n'y a rien de plus joyeux, en fait, que de voir un enfant venir au monde, honnêtement. Et je vous parle, en fait, ça peut être un enfant absolument normal, sans, qu'on ne touche même pas, c'est-à-dire qu'il s'accouche presque lui-même. Le fait d'être en témoignage, en fait, de cette transition vers la maternité de quelqu'un, c'est vraiment l'événement le plus joyeux, en fait, qu'on peut vivre personnellement pour moi en tant que médecin, en tant qu'obstétricien. Ceci dit, il y a quand même, qui est pour moi personnellement est aussi un des aspects très positifs de ma spécialité, c'est que même s'il y a des soins aigus, il y a quand même une chronicité, en fait, en suivi de grossesse ou à quelqu'un qu'on suit, en fait, pour des besoins contraceptifs ou en ménopause. Et donc, il y a quand même une relation qui s'établit avec les patients que l'on voit tel que, comme les médecins de famille vont le faire, qu'on ne voit peut-être aussi, qu'on ne voit pas peut-être autant pour un urgentologue qui va avoir des patients, on va traiter, mm-hmm. puis après, OK, on fait suivi ailleurs. Ou des fois, peut-être un chirurgien orthopédiste qui va réparer en fait une fracture, mais qui peut-être après son suivi post-opératoire, on ne se voit plus. Il n'y a rien contre ça, mais c'est que vraiment pour moi, un des bénéfices, ce que je ramène beaucoup plus à la maison à la fin de la journée, ce n'est pas tant la pathologie, mais plutôt l'interaction avec le couple, avec les patients.
Créer un lien.
Ouais, et c'est formidable, personnellement pour moi. Il y a d'autres, par exemple, qui veulent absolument faire plus de volume et qui s'intéressent un petit peu moins à cet intérêt. Et c'est correct aussi, on en a besoin, mais c'est juste que pour moi, personnellement, c'est soit la naissance ou soit les interactions avec ces groupes, en fait, dans notre société qui me fascine.
Puis de l'autre côté,
ouais, l'envers de la médaille.
Ouais, l'envers de la médaille, les grands défis. Ou
les grands défis, ouais. C'est une excellente question et j'ai un petit peu réalisé. C'est sûr que, oui, il y a la réponse générique qui est toujours de donner des mauvaises nouvelles à quelqu'un qui, a priori, n'est pas malade. Et donc, le pourquoi qu'il y a une fausse couche, pourquoi, en fait, on a une prééclampsie, pourquoi il y a une anomalie fœtale, pourquoi est-ce que j'ai encore des fibromes, pourquoi est-ce que j'ai encore un kyste à l'ovaire, peu importe. Et c'est jamais facile, en fait, d'en aborder un sujet que la patiente ne sera peut-être pas contente après d'en entendre parler. Mais personnellement, pour moi, le plus grand défi que je vis presque à tous les jours, honnêtement, c'est souvent une patiente se présente avec une symptomatologie et... que l'on soit capable de la diagnostiquer ou pas, il y a toujours la question du pourquoi. Pourquoi ça m'est arrivé? Et j'ai beaucoup de difficultés des fois à expliquer aux patientes que des fois, on connaît peut-être les caractéristiques d'une certaine maladie, on sait peut-être comment la traiter, on sait peut-être comment bypasser un petit peu ce qui est en train d'arriver sans savoir exactement qu'est-ce qui est en train d'arriver. Et l'exemple parfait, c'est mettons une femme qui a des saignements anormaux, qui ne va pas avoir des menstruations régulières, mais qui va peut-être avoir des saignements anormaux. Souvent, on ne trouve pas de cause, mais on sait comment le traiter. Mais il y a beaucoup de patients qui veulent absolument savoir et comprendre pourquoi, et je pense que je serais pareil. C'est juste que des fois, on n'a pas les réponses. Et l'idée de vouloir dire « je ne le sais pas » à quelqu'un alors qu'il vient vous voir justement pour savoir est très dur, est très difficile. L'autre exemple parfait, en fait, c'est en contexte de fertilité, un couple qui décide de tomber enceinte, qui vient vous voir pour justement embarquer, entamer des investigations, et que finalement... d'après les études, 50% du temps, tout revient normal. Il y a carrément une catégorie qu'on appelle infertilité inexpliquée. Donc, oui, c'est facile, hein, ça, c'est un libellé, on se dit, OK, c'est infertilité, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir tomber enceinte ou pas? Et là, on sort presque avec plus de questions que quand on rentrait, en fait, voir, parce que tout est normal, alors qu'est-ce qu'il y a vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est que vraiment, notre science, elle a encore, en fait, du chemin à faire. Et c'est OK. C'est-à-dire, c'est OK de se trouver dans une situation privilégiée où on se trouve aujourd'hui, mais qu'on ne connaisse pas toutes les réponses. C'est juste que c'est difficile d'accepter, en fait, le fait qu'on veut absolument aider quelqu'un, mais on ne peut pas toujours donner des réponses parce que nos connaissances ne sont pas encore rendues là. Je faisais l'exemple, en fait, avec un collègue. Si faites l'expérience chez vous, demandez à vos grands-parents, à vos parents, en fait, des technologies qui sont ressorties alors qu'ils étaient jeunes. C'est la télé ou le téléphone ou le portable, peu importe. Ils vont vous dire, on se sentait comme dans la sommité de la civilisation humaine, dans le trajet, en fait, dans l'esprit. Alors que 10 ans plus tard, ça avait complètement changé, tout était neuf. Et là, tu t'es dit, quand j'étais enfant, il fallait appeler le gars de la crème glacée dans l'autre coin pour qu'il vienne. Tu sais, il y a des choses qui changent tellement rapidement et la médecine, c'est pareil. Et donc, l'idée, c'est vraiment, on n'a pas les réponses aujourd'hui, mais le but, c'est de promouvoir la recherche et de pouvoir promouvoir, en fait, un petit peu l'esprit critique, en fait, de la chose pour investiguer, pour pouvoir trouver des solutions plus tard.
qu'un mais, jour, ce genre de situation-là arrive moins souvent, au moins.
Voilà. On connaît plus de... Ça, c'est un côté. L'autre chose qui me fatigue un petit peu, mais qui est frustrante aussi, c'est ma femme, par exemple, est endocrinologue. Et elle, par exemple, elle est capable de titrer carrément sa dernière unité d'insuline pour un besoin d'un patient spécifique. Et donc, pour chacun de ces patients, elle a besoin de faire un plan très spécifique au patient. C'est vrai aussi en obstétrique et gynécologie. Mais par exemple, nos médicaments ont toutes presque la même dose. Fait qu'une femme, qu'elle ait un surpoids, qu'elle soit très très mince, qu'elle soit adolescente, qu'elle soit en ménopause ou près de la ménopause, la pilule est toujours la même. Alors cette idée en fait d'avoir une médecine centrée sur le patient n'est pas tout à fait encore répandue dans notre spécialité. Et j'imagine aussi que dans le futur, en fait, on va pouvoir avoir, s'il y a peut-être une composante génétique à tout ça, mais savoir... Est-ce que j'essaie ces traitements dans cette patiente ou est-ce qu'on passe directement à la deuxième ligne parce qu'elle a peut-être une mutation quelconque qui ne va pas l'empêcher de tolérer bien ses médicaments? Ça serait beaucoup plus utile, en fait, d'avoir accès à ces informations, beaucoup moins de pertes, un petit peu de, pas de temps, mais des ressources, en fait, et du temps pour la patiente, de dire, OK, je suis en train d'essayer quelque chose qui peut-être ne fera pas effet. Et aujourd'hui, on se trouve carrément à passer, ah, t'as pas marché ça, OK, on va essayer celle-là d'abord. Si la deuxième n'a pas marché, on sert à la troisième. Et c'est un petit peu frustrant parce que, comme je vous dis, on n'a pas encore l'idée d'avance, qu'est-ce qui va marcher. C'est vrai, je pense, dans la plupart des spécialités, mais je trouve que je pourrais faire un pad des prescriptions déjà pré-registrées, juste cocher ce qu'il faut prescrire parce que ça ne change jamais. Après, c'est comme un petit peu décevant de ce côté-là.
C'est un peu une chose à améliorer dans ce domaine-là, en fait. C'est d'avoir plus d'études pour pouvoir être capable de doser puis personnaliser les médicaments.
J'utilise le médicament et le dosage comme un exemple, mais ça peut être, en fait, est-ce que toute technique chirurgicale doit être la même pour toutes les patientes? Ou est-ce qu'on va avoir un jour peut-être un modèle peut-être de trois dimensions du bassin de la patiente qui va nous permettre de déterminer, bon, mais peut-être cette approche est meilleure que cette approche, on va mettre l'aiguille ici, non pas là-bas. Peut-être, j'en doute pas que ça va venir. L'idée, en fait, de la médecine personnalisée, centrée sur l'individu, est forte. C'est juste qu'on n'est pas rendu, en fait, là où on veut s'y rendre encore.
Ouais, c'est intéressant. Sinon, un conseil pour des étudiants comme nous à la recherche de leur carrière?
Bon, c'est une question difficile. Et la raison est simple, parce qu'encore une fois, l'expérience de tous gynécologues est différente l'un de l'autre, de tous spécialistes l'un de l'autre. Mon avis, en fait, pour qui que ce soit pour une prise en charge d'un choix de carrière ou n'importe quel choix personnel, c'est vraiment faites ce qui vous tient à cœur. Faites ce qui va vraiment vous passionner. Faites en sorte que vous allez au travail, mais vous ne vous sentez pas comme si vous allez au travail. Et c'est difficile des fois de le savoir d'avance, mais surtout n'ayez pas peur à changer. N'ayez pas peur à trouver de nouvelles solutions, parce que finalement, la seule personne, même si on a des organismes, même si on a des collègues, même si on a des mentors, la dernière personne qui va prendre soin de vous, c'est vraiment vous autres. Et donc, votre joie, tenez-la à cœur, prenez-la en charge et trouvez vraiment des choses qui vous passionnent. Il n'y a rien de mieux dans la vie.
Merci beaucoup, c'est un excellent conseil. Puis sinon, est-ce que vous travaillez avec des organismes ou des choses comme ça que vous aimeriez mentionner aux auditeurs?
Merci, en fait, d'avoir amené ça à la table. C'est pas un organisme en tant que tel. D'après certaines difficultés, j'avais vécu, en fait, pendant l'école de médecine, ma mère étant malade, je vous l'avais dit, elle est décédée justement 2 mois, en fait, avant la graduation de médecine. Et on a développé, en fait, en sa mémoire, parce que, je recule un petit peu, bien évidemment, les dernières années étaient difficiles, côté aidant naturel, bien évidemment, côté maladie. Et je me suis approché de la faculté pour leur demander un petit peu de support ou de conseils, d'avis, de quoi faire. Ils ont été d'une aide, en fait, qui est énorme. Je veux dire, on ne peut pas dire assez, en fait, de la faculté de médecine à McGill. Et je me suis senti un petit peu endetté envers tous les conseils, toute l'appréciation, toute la patience, tout le temps qu'ils m'ont consacré dans ces moments difficiles. Donc, j'ai créé, en fait, suite au décès de ma mère, c'est pas pour dire une bourse, mais c'est une reconnaissance, d'une certaine façon, en son nom, en sa mémoire, qui vient reconnaître, en fait, l'effort des aidants naturels à la faculté de médecine, qui, eux aussi, prennent charge, ou prennent soin des personnes dans leur famille qui sont malades, ou de leur propre santé, par exemple, qui ont besoin d'avoir des traitements alors qu'ils sont en train d'étudier, ce qui est très difficile. On s'entend que l'école de médecine n'est pas facile. Et chaque année, en fait, il y a 2 étudiants qui sont choisis et qui reçoivent, en fait, une reconnaissance. Oui, il y a un côté financier à la chose, mais c'est plus la reconnaissance, en fait, de l'effort qu'ils sont en train de faire, mm-hmm. de leur pousser, en fait, à persévérer, à continuer, à toujours être motivés, en fait, à atteindre leur but, et de savoir que même si la vie, en fait, elle change des fois les plans, on peut quand même pousser en avant, puis qu'on a du support derrière. Et donc, pour cela, bien évidemment, il faut toujours faire une recueillette des fonds. On a été très chanceux. Ça fait 10 ans, en fait, que le programme est en pied et ça va super bien. Mais toujours, on veut grandir, en fait, on veut aider plus de personnes. Donc, je pense que je vais vous donner le lien si vous voulez. Ouais, vous allez pouvoir le mettre
dans les commentaires.
Félicitations, c'est vraiment une belle mission. Puis juste, je ne veux pas vous garder trop longtemps.
Non, il n'y a pas de problème, avec plaisir.
Mais, une des missions de notre podcast, c'est vraiment d'augmenter un peu l'exposition aux jeunes qui vivent peut-être dans des milieux avec moins justement d'exposition, des milieux plus défavorisés ou des situations plus difficiles. Puis j'ai l'impression que c'est quand même votre cas. Là. Vous étiez dans une situation difficile avant de rentrer en médecine.
Ouais.
Donc, à ces jeunes-là là, qui sont secondaires, cégep, puis qui n'ont pas le portrait typique de ceux qui vont rentrer en médecine, avez-vous un petit mot, un petit conseil?
Lâchez pas. C'est ce qui est le plus important. Lâchez pas. La vie est difficile, des fois. La vie va vous mettre des obstacles inattendus, soudains, qui ne sont, en fait, même pas bienvenus, mais que vous n'aurez pas le choix, en fait, d'en faire face. Et l'idée, en fait, c'est de vous trouver le juste milieu, de ne pas, en fait, vous rendre à un certain point où vous dites « OK, je ne me reconnais plus, qu'est-ce qui m'arrive ?» et de demander de l'aide, en fait, quand c'est le temps de le faire. Il n'y a aucune honte et il y a un tas d'organismes et un tas de personnes, en fait, dans votre environnement social que je suis sûr, en fait, sont prêts à tout laisser tomber de côté pour venir, en fait, vous aider. Donc, certainement, si vous avez un rêve et que la vie, en fait, vous jette un petit peu un obstacle, lâchez pas, gardez, en fait, ça en tête et persévérez, en fait, c'est la seule façon de faire.
Merci beaucoup.
Ouais, merci à vous d'avoir été venu aujourd'hui.
C'est vraiment non, oui, on a des cadeaux, en fait, de nos commanditaires. Ah. Donc, on a François Lambert et la boîte à vin. Donc, on voulait les remercier pour ces cadeaux-là.
Ouais.
Et sinon, pour le reste, pour nos auditeurs, merci d'avoir été encore avec nous. C'était vraiment intéressant. Ouais. Si vous avez des commentaires, des questions, vous les posez, vous pouvez les laisser en commentaire. Sinon, n'oubliez pas, il y a le lien aussi en bas pour le programme que tu viens de nous parler.
Ouais, puis parlez-en à vos amis si vous aimez notre podcast. Donc, merci beaucoup d'avoir été là.
Merci à vous, vraiment. Excellente initiative.
Merci.
Merci.